Star Wars en direct vous est présenté en collaboration avec Citlan.net, Mintinbox.net, StarWarsHolonet.com, PlanetStarWars.com, StarWarsUniverse.com, Star Wars Geeks Québec, le Space Trash Show, ainsi que Génération Star Wars et Science-Fiction.
Bienvenue à Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars, pour cette seconde émission jeunesse qui sera consacrée aux trois albums BD Star Wars Aventure de chez Delcourt. Je suis Francis, et comme à l'habitude pour les émissions jeunesse, je suis accompagné de ma co-animatrice Tamara. Bonjour Tamara.
Bonjour.
Donc, dis-moi Tamara, quoi de neuf côté Star Wars pour toi ces temps-ci?
Je suis en train de lire la série Aventure dans un monde rebelle.
Ouais, les petits romans
Romans
Bibliothèque Verte.
Ouais. C'est pas mal ça. J'écoute aussi des épisodes d'Une galaxie d'aventure.
Ouais, les clips sur YouTube?
Ouais.
Ouais, comment tu trouves ça jusqu'à maintenant?
C'est assez intéressant.
Au niveau graphique, comment tu les trouves?
C'est bien. Mm-hmm. À part pour certains personnages, là, ça ne ressemble pas du tout. Mais...
Ben, je pense que c'est vraiment soit on aime, soit on n'aime pas. C'est un style, un dessin un peu plus manga japonais.
Ouais.
Donc, c'est ça. Je sais qu'il y en a qui n'ont pas aimé là, quand ça a commencé. De toute façon, c'est un autre thème qui fera l'objet éventuellement d'une émission de Star Wars en direct jeunesse. Donc, on s'étendra pas trop sur le sujet aujourd'hui. Moi, de mon côté, mon WhatsApp va ressembler au tien parce que moi aussi, je suis sur la lecture des romans Aventures dans un monde rebelle qui fera aussi l'objet d'une émission de Star Wars en direct jeunesse sous peu. Sinon, j'ai testé les nouveautés sur Star Wars Battlefront 2, donc il y a eu quelques changements récemment qui viennent quand même améliorer le gameplay pas mal. On a remarqué entre autres les droïdes Eka, donc les fameux droïdes qui roulent, qui tirent sur Obi-Wan et Qui-Gon avec une espèce de bouclier déflecteur, qui viennent quand même changer un peu le jeu quand ils sont présents en force. Donc j'ai trouvé ça quand même intéressant. Donc, on rappelle qu'on est toujours en recrutement au Québec, donc si vous êtes intéressé à joindre l'équipe de Star Wars en direct, il y a un onglet exprès pour ça sur le site. Donc, si vous avez des talents particuliers, des intérêts, on sait que c'est très vaste maintenant, la galaxie Star Wars avec tout. Il y en a que ça va être le cosplay, il y en a que ça va être la littérature, il y en a que ça peut être l'édition, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Sinon, on rappelle aussi sur le site, vous pouvez aussi vous procurer des t-shirts à l'effigie de Star Wars en direct, donc pour faire un peu de publicité au podcast. Sinon, on remercie, comme à l'habitude, nos partenaires, donc Mintinbox, Star Wars Holonet, Citlan.net, Planet Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction, ainsi que le Space Trash Show. Sur ce, Tamara, on va passer en hyperespace.
Oh crap! Prepare to jump into hyperspace on my mark.
All right, stand by.
Donc, pour commencer, Tamara, si tu nous expliquais un peu Star Wars Aventure, les BD Star Wars Aventure, c'est quoi exactement?
En fait, c'est une série de comics jeunesse publiée en anglais depuis octobre 2017 chez IDW et publiée en français en album cartonné chez Delcourt depuis mai 2018. Il a sorti trois albums jusqu'ici et malheureusement, le quatrième qui devait sortir le 2 mai dernier a été annulé peu de temps avant sa sortie.
Ouais, ben dans le fond, c'est ça, on n'a pas eu vraiment de détails du pourquoi, du comment. Mais c'est une décision qui est sans doute due à des raisons commerciales. Mais il a presque immédiatement aussi été annoncé que les comics seront maintenant publiés sous un nouveau format d'album intitulé cette fois-ci « Nouvelles aventures ». Et le premier volume est prévu quand même rapidement là, pour le 21 août 2019, donc très bientôt. Et un second volume assez vite aussi là, en novembre prochain. Ma seule crainte, par contre, où il y en a que ça va faire leur bonheur, pour l'instant, d'après ce que j'en comprends, ça change peut-être de format. Donc, au lieu du format comics, comme on avait jusqu'à maintenant, ça deviendrait probablement plus le format BD franco-belge. Donc, le format un peu plus grand, là, style Astérix, Tintin, etc. Mais je sais qu'il y en a qui préfèrent ça, donc ça, c'est selon les goûts. Ça a été précisé aussi que ce qui est déjà sorti sur ces trois albums-là, Aventure, se retrouvera pas dans les suivants. Donc, c'est vraiment si ça continuait, mais en changeant de format.
En parallèle, il sortira aussi une série spin-off intitulée « Les contes du château de Vador », dont le premier album est prévu pour octobre prochain.
Donc, pour plonger dans le vif du sujet, allons-y avec notre premier album Star Wars Aventure. Celui-ci est sorti le 2 mai 2018. Si on prenait la quatrième de couverture, on y lit « Embarqué avec une galaxie lointaine, très lointaine, grâce à cette nouvelle série Star Wars. Lorsque le ferrailleur Unkar Plot est enlevé, Rey comprend que parfois les ennemis d'hier peuvent devenir les alliés d'aujourd'hui. Découvrez d'autres histoires avec Obi-Wan Kenobi, C-3PO, R2-D2, les rebelles affrontant l'Empire, dans lesquels nos héros préférés repoussent les frontières de l'univers Star Wars vers de nouveaux territoires. » Donc, je vais préciser qu'on avait déjà critiqué cet album-là l'automne dernier, peu de temps après sa sortie, avec Tom et Loïc, si je me trompe pas, dans le Star Wars en direct littérature numéro 28. Tom avait souligné, même s'il avait quand même relativement apprécié, il avait souligné le format réduit quand même, c'est pas très épais comme album si on compare avec d'autres, par exemple, qui sortent chez Panini. Mais Tom avait précisé que le rapport, pas qualité-prix, mais quantité-prix, était peut-être un peu bas. Là. Il était surpris à quel point c'était petit et je pense qu'il l'avait commandé en ligne. Donc justement, il savait pas là, en le commandant de quoi ça allait avoir de l'air. Au-delà de ça, Tom lui avait donné une note de 9 sur 20 à l'époque, justement à cause du prix. Sinon, on était tous les deux sur la même note. Là. Moi, j'avais donné un 15 sur 20. Mais c'est ça, il trouvait que c'était tellement exagéré le prix pour la quantité qu'il avait beaucoup baissé sa note. Donc c'est ça, comme on l'a déjà critiqué dans Star Wars en direct, littérature régulière, on ne reviendra pas autant en détail que les autres. Peut-être juste préciser que ça incluait le numéro 0, et le pilote, si on pourrait dire, et le premier numéro des Star Wars Adventure en version anglaise. Donc le pilote s'appelait Héros de la Galaxie, le premier numéro s'appelait Sois proche de tes amis et encore plus de tes ennemis. Donc c'était celui sur Rey et Unkar Plot. On avait aussi, il faut expliquer que dans ces albums-là, il y a toujours quelques numéros, on va dire originaux, Star Wars Aventure, et quelques numéros où est-ce que c'est quelqu'un qui nous raconte une histoire. Et là, quelqu'un, c'est, si j'ai bien compris, Tamara, tu me corrigeras si je me trompe, dans le fond, c'est le petit-fils de Milo.
Oui.
Des Aventures dans un monde rebelle. Et donc, le petit neveu de la sœur de Milo, vu qu'on suit les deux. Et encore une fois, il est encore avec le même droïde que dans la série de romans,
ouais.
Qui s'appelle Crater. C-R-T quelque chose. Puis, il y a lui aussi un singe lézard, comme dans la série de Bibliothèque Verte, mais cette fois-ci, il est rouge et c'est une femelle, si j'ai bien compris. Fait que, bref, c'est pas le même que dans les romans, mais il est essentiellement plus ou moins le même comportement. Fait qu'il y a toujours une mini-introduction, peut-être une page de ces personnages-là. Et ensuite, c'est ça, c'est des histoires que lui nous raconte. Donc, c'est toujours « Ah oui, telle situation, ça me rappelle telle histoire, je vais vous la raconter. » Et là, on a plusieurs pages sur une autre petite aventure. Par exemple, dans le premier volume, c'était une histoire de B1 avec Dex, donc son ami à quatre bras là, qui gérait un dinner, là, une cantine, une roulotte à patates frites qu'on dirait ici au Québec.
Qu'on voit dans Clone Wars, je pense.
Ouais, on le voyait au tout début de Clone Wars. Effectivement, Obi-Wan allait lui demander s'il connaissait le d'or qu'il avait récupéré sur la chasseuse de primes.
Hey, y a quelqu'un pour toi, chérie! Un Jedi a en jugé son allure!
Obi-Wan! Salut, Dex.
Donc, c'est relativement court. C'est plus court que les numéros réguliers.
Ouais.
Mais c'est quand même intéressant. Le premier qu'Obi-Wan s'appelait Alt Voleuse. Le second s'appelle Le Plateau d'Yavin et sa mère en vedette Evan Verlaine. Donc, c'est celle qu'on. Une pilote d'Alderaan qu'on avait déjà vue dans la série de comics Princesse Leia. Je pense que dans Princesse Leia, si je me souviens bien, il partait à la recherche des survivants d'Alderaan. Donc, les réfugiés là, d'Alderaan qui essayaient de survivre, qui étaient chassés par l'Empire un peu ou quelque chose comme ça. Je trouvais ça intéressant quand même de la revoir. Peut-être souligner aussi que. Un des concepts aussi chez Delcourt, c'est souvent à la fin d'avoir des illustrations, des pages d'illustration, présentation des personnages, aussi les pages, les variantes donc, de couverture ouais, qui n'ont pas choisi pour chez Delcourt, mais bref, qui ont été publiées ailleurs. Ce qui nous avait surpris aussi avec Tom, c'est la quantité. Donc, sur le premier volume de Star Wars Adventure, on avait au-dessus de 20 pages à la fin. d'illustrations comme ça. Donc, tu sais, en 20 pages, là, tu peux mettre un numéro complet. Là.
Ouais.
Fait que quand Tom parlait de la quantité très réduite, là, ben, c'était ça aussi un peu. Parce que c'est magnifique, là, avoir les. Moi, j'adore ça, voir toutes les variantes à la fin. Mais bon, c'est parce que quand t'en as autant, puis que ça aurait eu la place pour une autre histoire, ça valait-tu vraiment la peine? Donc, comme on l'avait déjà critiqué, on fera pas page par page, etc. Oui. Mais toi, Tamara, de ton côté, tu l'as lu récemment. Comment t'as trouvé ça, le premier volume de Star Wars Aventure?
Ben, je l'ai beaucoup aimé.
Mm-hmm.
Je l'ai trouvé un peu court.
Ouais, comme, c'est ça qu'on disait.
Oui. Il comptait juste 4 histoires dedans.
Mm-hmm. Même la première est ultra courte, là. C'est comme vraiment une présentation de la série. Par C3PO, je pense.
Oui, C3PO et R2-D2.
Mm-hmm. J'ai pas précisé aussi, mais c'est ça change de scénariste et de dessinateur à chaque numéro.
Ouais.
Donc autant sur un, on peut aimer les graphismes, sur l'autre, ça peut moins nous plaire. Donc il y a pas vraiment de continuité de ce côté-là.
Ouais.
Ce qui est intéressant aussi des fois, c'est que les scénaristes, ça va être des scénaristes qu'on est des auteurs qu'on est habitué de voir aussi, par exemple, dans des romans adultes ou dans d'autres séries.
Ouais.
Tu vois, comme celui-là sur Obi-Wan et Dex, ben, c'était le même scénariste que la série de livres dont on n'arrête pas de parler depuis tantôt, des aventures dans un monde rebelle. C'est le fun, c'est ça, de retrouver les mêmes personnes. Je sais qu'il y a d'autres numéros, c'est vraiment des auteurs de livres adultes, là, donc qui ont écrit ces petites histoires-là. Mais on en parlera en temps et lieu. Donc, moi, j'y avais donné un 15 sur 20 à l'époque. Tom, on a parlé d'un 9 sur 20, surtout à cause du prix. De ton côté, tu y aurais donné quelle note, Tamara?
Moi, j'ai donné sur 10.
Mm-hmm.
J'y donnerais 7 sur 10.
7 sur 10, donc un 14 sur 20. T'es quand même pas mal aussi dans les mêmes notes.
Oui, mais j'ai trouvé qu'il pourrait avoir plus d'histoires à l'intérieur.
Ouais, vraiment, ça, le premier numéro, hein, c'est...
Il y a juste 4 histoires, puis on va en parler tantôt, mais les deux autres, ils en contiennent une de plus.
Mm-hmm. C'est ça, c'est certain. C'est un choix, écoute. C'est un choix qu'ils ont fait d'en sortir plus souvent, mais moins épais. Il reste à voir aussi pour le prix, si les gens sont prêts. C'est peut-être ça qui a pas aidé aussi leur vente. Le prix par rapport à la quantité.
Ouais.
Donc, si on passait au deuxième Star Wars Aventure, celui-ci est sorti le 5 septembre 2018. Si je te demandais, Tamara, de nous lire la quatrième de couverture.
FN-2187. Sous les ordres du Capitaine Phasma, passe une sale journée à chasser un monstre qui lui donne du fil à retordre. La mission secrète et périlleuse de Luke et Leia sur Tibrine se révèle être explosive. Et encore, plus d'histoires avec K2SO, Cassian, Emile et CR-8R, entraînant le monde de Star Wars sur de nouveaux terrains pour une nouvelle génération de fans.
Ouais, donc ils disent directement que ça s'adresse à une nouvelle génération de fans. Donc c'est ça, ça s'adresse peut-être pas à ceux qui étaient dans la salle en 1977, pour voir la guerre des étoiles.
Puis comme j'ai lu en arrière de la quatrième de couverture, CR-8R, ceux qui ne le savent pas, là, c'est Crater, le droïde qu'on parlait tantôt.
Ouais, c'est ça, le droïde qui est dans la série de romans d'aventure dans un monde rebelle. C'est ça, son petit nom, c'est Crater, comme les surnoms qu'il donne de plus en plus là, aux droïdes, un peu comme Chopper dans Star Wars Rebels. Donc, celui-là, un peu comme tu disais tantôt, on a 5 histoires au lieu de 4. Et, bon, contrairement au pilote aussi, là, c'est des histoires un peu plus longues. Parce que le pilote, je pense, faisait juste dans le numéro 1 tantôt. Le pilote faisait quelque chose comme 9 pages, là. Donc, c'est vraiment très, très court. Celui-là, si je faisais le résumé, ça contient les numéros 2 et 3 de Star Wars Aventure. Et 3 histoires de Emile, Crater et compagnie. Donc, ce qu'on disait tantôt. Le numéro 2 de Star Wars Aventure s'intitule Nettoyage. Donc, comme Tamara le disait tantôt, ça parle de FN-2187, donc Finn, alors qu'il était encore dans le premier ordre. Ensuite, le deuxième, Ennui à Tibrine, c'est une aventure de Leia et Luke. Donc, assez périlleuse, merci. Je dirais que ça se passe pas tant longtemps après l'épisode 4. On y reviendra. Et les 3 autres, c'est quand même assez original et varié. On en a une qui est question de Cassian, K2SO et compagnie. On en a un, c'est vraiment 100% des personnages qu'on connaît pas. C'est une relativement courte histoire sur des enfants, là, mais qui sont inspirés par les héros de la rébellion. Un peu comme on voyait à la fin de l'épisode 8 avec les enfants là, qui étaient inspirés par l'histoire de Luke. Et le dernier drôle d'oiseau, bon, ben, c'est Rip et Chewbacca dans le Faucon Millennium qui ont des problèmes avec les porgs.
Ouais.
Donc, rien d'excessivement nouveau ou original. Bon, les porgs, on sait bien, il y en a qui les aiment beaucoup.
Oui.
Donc, première histoire avec Finn. Qu'est-ce que t'en as pensé, Tamara?
J'avais vraiment aimé.
Mm-hmm.
Elle était super drôle.
Ouais, c'est très dans l'humour, hein, effectivement.
Oui.
C'est l'histoire, dans le fond, que Finn, en revenant d'une mission, ils ont rapporté une créature quelconque. Et Finn est chargé de faire le nettoyage, ou en tout cas d'enlever une espèce de produit là, qui est après le vaisseau. Et c'est ça, le petit monstre violet lui vole son casque. Donc évidemment, Finn pense tout de suite à Phasma qui lui a bien dit clairement qu'il doit jamais être compromis, il doit jamais enlever son casque. Donc toute l'aventure tourne autour de Finn qui court après cette créature-là. On y retrouve Kylo Ren, le général Hux, Phasma évidemment,
ouais.
Parce que la créature finit par voler le casque de Phasma aussi pendant qu'elle est dans les douches.
Vous ne me connaissez pas, Maz. Vous savez pas d'où je viens et ce que j'ai vécu.
Donc c'est ça, on est beaucoup dans l'humour, dans le léger, rien d'extrêmement complexe. Mais on voit déjà que Finn, à la fin, a une âme peut-être plus sensible que les Stormtroopers habituels.
Ouais.
Donc toi, t'as bien apprécié?
Oui, oui, c'était super bon.
Mm-hmm.
Les graphiques étaient vraiment beaux.
C'est un style précis hein, quand même, des traits fins.
Ouais.
Je suis pas certain de l'avoir apprécié autant que toi. Je donnerais peut-être la note de passage, là, pas plus que ça. Je trouve que c'était relativement sans intérêt. J'ai beaucoup plus apprécié le suivant dont on va parler maintenant.
Ouais.
Qui s'appelait Ennui à Tibrin, donc une aventure de Leia et Luke.
Qui sont en mission diplomatique.
Ouais.
Supposément.
Ouais, ouais. Ben, à l'origine, c'est une mission diplomatique.
Ouais.
C'est juste que ça vire à bataille un peu. C'est Leia qui se rend sur Tibrin peu de temps après la destruction de la première étoile de la mort. À bord d'un vaisseau qui fait très Naboo, hein, un vaisseau chromé là, qui fait vraiment très palmé. Donc on a Luke qui était aux commandes. On se rend sur Tibrin. Leia qui est sur la planète pour essayer de les convaincre de se joindre à la rébellion. Elle est là plus ou moins incognito. C'est une planète qui a quand même une petite présence impériale. Et il y a justement un droïde de sécurité du type de K2 vaisseau. Ce droïde-là entend et voit les deux jeunes recrues rebelles parler à Luke de comment il a fait exploser l'étoile de la mort. Donc, c'est par accident que l'Empire s'aperçoit qu'il y a des rebelles sur place, parce qu'ils faisaient rien de spécial, ils étaient juste en train de discuter en dehors du vaisseau. Et se mettent à, évidemment à leur tirer dans le tas, donc ça coupe court à toute la mission qui était très importante selon Leia. Finalement, Luke se fait capturer, se fait emmener sur un vaisseau, et on a l'inverse de ce qu'on voyait dans l'épisode 4, c'est Leia qui part à sa rescousse, qui va même finir dans le compacteur à ordures. J'ai trouvé intéressant de voir que c'est ça, on a une Leia qui l'a pour partir à sa rescousse, ce costume en officier impérial.
Ouais.
Donc tout en uniforme vert de gris. Et on voit qu'elle a plusieurs cartes d'identité, un peu comme un espion qui a plusieurs passeports. On voit sa tête en espèce de reine amygdala quasiment, là, ou en tout cas avec la robe. On voit celle en officier impérial et on en voit même une en Twi'lek.
Ouais.
Je me suis dit, ça serait quand même intéressant de voir Carrie Fisher un moment donné, là. La princesse Leia déguisée en Twi'lek pour passer incognito. Bref, ça, je trouve, ça serait pas pire original quand même. Et donc, pendant que Luke se fait torturer à bord d'un destroyer stellaire, ben Leia débarque à bord prétextant un transfert. Elle avait caché une bombe dans une navette, bref, a réussi à semer la pagaille, à récupérer Luke, et bon, on sera pas tant surpris qu'ils réussissent à s'enfuir.
C'est une fière opération! En arrivant ici, vous n'aviez même pas de plan pour ressortir!
Le nom d'un chien, mais qu'est-ce que vous faites?
Il faut bien que je vous sorte d'ici!
Je sais pas, tu me diras ce que t'en penses, Tamara. J'ai trouvé que c'était une petite histoire presque digne des comics plus pour adultes, donc... Quelque chose, tu sais, avec plusieurs développements, plusieurs
péripéties. Ben, moi, j'ai trouvé que ces histoires-là, il aurait pu la mettre juste dans un comics, puis vraiment plus l'allonger.
Ouais.
Faire vraiment juste...
Ouais, ça va vite.
Ouais, un album.
Côté graphique, on est encore dans le même style que l'autre d'avant. C'est dans le précis. Quand on regarde un croiseur interstellaire, t'as tous les détails quand même assez bien faits. On reconnaît les visages de Luke et de Leia. Donc, à part le fait que ça allait un peu vite puis que t'aurais voulu que ce soit plus long, est-ce que tu l'as aimé?
Oui, il était vraiment intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé.
Mm-hmm. Ensuite, ça c'était les deux numéros vraiment de Star Wars Aventure. On tombe dans les histoires de l'espace sauvage, donc ce qu'on vous décrivait tantôt. Cette fois-ci, encore notre narrateur habituel qui s'appelle Émile, qui jase avec ses droïdes, dont Crater. Et ça lui rappelle une histoire de babysitting, mais comme il est question de Wookiee, là, c'est du Wookiee-sitting. Donc ça s'appelle les tribulations d'un Wookiee-sitter. Et fait intéressant, je parlais de scénariste tantôt, et bien pour celui-là, qui met en vedette K2SO et Cassian Andor, eh bien on a l'interprète de K2SO qui fait partie des scénaristes, donc Alan Tudyk, l'acteur,
ouais,
qui jouait K2SO et qui avait apporté beaucoup de sa personnalité au droïde dans le film de Rogue One. Donc j'ai trouvé ça le fun là, de l'avoir aux commandes. Petit résumé de l'histoire parce que c'est vraiment simple ici. C'est Cassian puis K2 qui attaquent une navette, je pense. En tout cas, on le voit pas précisément.
Ouais, un cargo, je pense.
Une installation impériale. Et ce qu'ils découvrent, qu'il y a beaucoup de valeur pour les impériaux, ce qu'ils sont venus voler, ben finalement, c'est pas de la marchandise, c'est des Wookiees. Donc, eux-mêmes sont surpris.
Félicitations, vous êtes sauvés. Veuillez ne pas résister.
Cassian finit par les débarquer sur une lune du secteur, un milieu forestier un peu. Et demande à K2 de jouer le babysitter le temps que Cassian fasse une mission avec quelqu'un d'autre rapidement.
Je trouve cette réponse évasive et peu convaincante.
Donc K2SO, qui depuis le début arrête pas de considérer les Wookiees comme de quoi de pénible et une charge et qui aurait pas dû les amener, bon ben finit par devenir très paternel, on va dire ça comme ça, avec eux. Et bon, il lui arrive quelques petites péripéties. Mais à la fin, K2 dit à Cassian, tu vois, tout le monde m'adore. Les Wookiees l'aiment beaucoup à la fin. Et Cassian trouve ça drôle parce que il y avait le discours complètement contraire au début de l'aventure. Donc, c'est une histoire relativement courte. Qu'est-ce que t'en as pensé de ton côté, Tamara?
Elle était très drôle, l'histoire.
Mm-hmm.
J'ai trouvé vraiment courte, puis très simple.
Côté graphique, est-ce que t'aimes ça?
Oui, j'aime bien. Je trouve qu'on a un peu plus de misère à distinguer Cassian.
Ouais, au niveau des visages, peut-être.
Ouais. Là,
mais moi, j'ai bien aimé de retrouver Cassian et K2.
Ouais, ça faisait longtemps qu'on les avait pas.
Exact. Et d'avoir l'interprète de K2 qui a co-écrit, co-scénarisé la chose, j'ai trouvé ça bien le fun. Le suivant s'intitule Le Bon, la Brute et le Rebelle. Je sais que toi, Tamara, ça te dit absolument rien comme référence. Mais c'est une référence à un vieux film classique américain, Le Bon, la Brute et le Truand. Donc ici, on est dans un dessin beaucoup plus grossier, beaucoup plus gros tracé. Moi, ça me rappelle beaucoup le numéro spécial qu'il y avait eu sur C3PO, dans lequel on apprenait comment il avait perdu son bras, ouais, puis il s'en était fait donner un rouge.
Donc,
c'est une histoire relativement courte. C'est l'histoire d'une bande d'enfants qui y en a un qui dit qu'il est bon de nature, que c'est une bonne personne. Et une petite fille lui répond, ben comment tu peux savoir si t'as jamais été mis à l'épreuve? Et finalement se pointe sur leur ferme une brute là qui vandalise, on va dire, et qui chamaille avec un petit jeune du coin. Donc la petite fille part à la rescousse du jeune. Et le petit qui disait qu'il avait une bonne nature, qu'il était plein de bonté, lui a peur d'intervenir. Mais c'est ça, finit par s'inspirer de Leia, Luke et l'amiral Akbar et tous les autres héros de la rébellion. Et finit par attaquer la brute à coups de moissonneuse. Bref, c'est ça, il part à l'attaque. La brute est obligée de se sauver en criant. Donc c'est ça, une petite histoire de courage, on va dire.
Ouais.
Hein, de courage de défendre les plus faibles. De ce côté-là, qu'est-ce que t'en as pensé?
Moi, je l'ai pas du tout aimé.
Non?
Non, je l'ai trouvé ennuyante puis longue à lire.
Mm-hmm. Ben, c'est certain qu'en partant, ça met en œuvre aucun des personnages qu'on connaît.
Ouais.
Donc, vraiment, là, c'est 100% c'est du monde qu'on connaît pas.
Ouais.
C'est des enfants, ils se passent. Tu sais, il y a rien d'épique là-dedans, il y a rien de galactique, c'est vraiment mineur là, comme histoire.
J'ai trouvé aussi que dans les graphiques, ben, les couleurs, je trouvais qu'on avait de la misère à distinguer. Les visages, des fois, à cause du coucher du soleil, les visages étaient orange aussi.
Ouais, c'est fait comme si, effectivement, il faisait très très clair, hein, comme tu disais, un peu
J'ai trouvé qu'on avait de la misère à distinguer les éléments.
Mm-hmm. Fait qu'une moins bonne note pour cela. Et notre dernière histoire des cinq s'intitule « Drôle d'oiseau ». Donc, comme j'ai précisé tantôt, c'est une histoire de Porg. Je précisais aussi qu'on avait des fois des auteurs, des livres, qui scénarisait ces petits comics-là. Cette fois-ci, on a Delilah S. Dawson, Donc, une hauteur là, qu'on est habitué de voir au niveau des romans. Par contre, faut avouer que c'est pas ce comics-là qui a mis ses capacités d'auteur à rude épreuve, parce que c'est relativement simple. Pour résumer l'histoire, c'est les Pogs qui foutent le bordel dans le Faucon Millenium après le départ de l'île de Acto, probablement là, dans l'épisode 8, entre le moment où Rey et Chewbacca partent de l'île et le moment où ils rejoignent le reste de la rébellion là, sur Crète. Donc, c'est ça, les Pogs qui foutent un peu le bordel, qui s'immiscent dans tous les recoins, qui volent un peu tout, qui brisent un peu tout. On apprend qu'ils sont omnubilés par les objets brillants. Donc, ils volent les outils en métal. Fait que c'est ça. Tout le comic, c'est ça. Au moment où Rey et Chewbacca sont le plus à bout, on va dire, tannés de réparer tout ce qu'ils font, puis ils finissent par les retrouver endormis là, avec tous les objets qu'ils avaient volés. Donc, ils les trouvent trop cute pour rester fâchés.
Ouais.
Comment t'as trouvé ça, Tamara? Toi qui aimes tant les Pogs?
J'ai beaucoup aimé.
Ouais.
Surtout la fin, j'ai trouvé très drôle la fin. Où est-ce qu'on retrouve Émile?
Okay, Émile Crater puis son singe. Là.
Oui, qui dit qu'il pourrait peut-être adopter un porc, mais que le singe légère qui s'appelle Noni. Je veux pas du tout.
Ouais, c'est ça, il verse son breuvage sur l'écran là où est-ce qu'on voit un porc.
Ouais.
Sinon, après, on a encore une fois une bonne dizaine de pages, un peu comme le premier volume,
ouais.
De variantes de couverture. On n'a pas cette fois-ci de description de personnage, comme non. On avait dans le premier.
Je pense qu'ils l'ont fait uniquement des variantes. Ils l'ont fait juste dans le premier, parce que...
Pour remplir?
Ouais.
Il y a quand même, dans celui-là, là, plusieurs variantes que j'ai trouvées très très jolies là, pour les différentes histoires. Donc, le côté prix dont Tom avait parlé dans notre critique de Star Wars en direct littérature, je ne saurais pas dire si les prix ont baissé... mais je crois qu'on est dans la même quantité quand même. On a une histoire de plus, moins de pages inutiles à la fin.
Ouais.
Mais je pense qu'on est dans la même quantité.
Oui, parce qu'il y a deux ou trois histoires qui sont assez courtes.
Mm-hmm.
Puis dans le 1, il y avait quand même une ou deux histoires assez longues. Fait que pour moi, c'est le même nombre de pages de lecture.
Moi, je dois dire que j'ai beaucoup aimé la couverture de cet album-là de Delcourt. Là, on a Leia et Luke, ça fait très épisode 4.
Ouais, l'illustration est très jolie, mais je trouve qu'elle va pas avec ce qu'il y a dans la, dans la BD.
Donc, si t'avais une note à lui donner, celui-là, Tamara?
Je lui donnerais 9 sur 10.
9 sur 10, donc on est proche de la perfection.
Ouais.
Comme quoi, tu l'as beaucoup aimé.
Oui, ce qui a fait baisser sa note, c'est juste l'histoire avec les enfants que j'ai vraiment pas aimé. Je trouve qu'il aurait pu mettre une autre histoire sur les personnages qu'on connaît très bien, comme Luke, Leia, Han Solo.
Ouais.
Il me semble que Han Solo, ça aurait été le fun. On le voit pas dans aucune BD, je pense.
C'est vrai. Moi, de mon côté, effectivement, côté graphique, je trouve que c'est généralement plutôt joli. Côté histoire, bon, faut se rappeler que c'est un format pour plus jeunes. Mais j'ai quand même été justement agréablement surpris par l'histoire de Leia et Luke. Donc, pour le format jeunesse, comme tu le disais, on aura envie d'en savoir plus sur cette mission-là, d'avoir un peu plus, de l'avoir, mais en version plus longue. Et côté, bon, divertissement, je trouve que c'est relativement divertissant.
Moi, je trouve que dans ce tome-là, c'est les histoires qui avaient le plus d'humour.
Ah ouais?
Oui, le 1, les histoires étaient pas vraiment drôles, ils étaient plus sérieuses. Dans celui-là, il y a toujours de l'humour. Comme dans celui avec Finn, celui avec les Pogs. Je l'ai aimé.
Donc, moi, de mon côté, je donnerais peut-être un 16, 17 sur 20. Je pense que ça remplit sa mission pour le public cible que ça vise. Il y a plus d'histoires que dans le précédent, donc ça s'est amélioré de ce côté-là.
Ouais, puis moi, j'en parlais avec mon petit frère tantôt, le plus jeune. Puis je lui ai dit qu'il pourrait en lire une, puis il voulait pas du tout lire le premier tome. Il l'aimait vraiment pas. Puis le 2, il a vraiment trippé.
Ah ouais?
Ouais. Il l'a lu plusieurs fois.
Non, c'est ça. Je pense que comme divertissement pour les plus jeunes, c'est une belle initiation quand même à l'univers de Star Wars. Pour le troisième volume de Star Wars Aventure, cette fois-ci, celui-là est sorti le 23 janvier 2019. Tamara, je vais te demander de nous lire la quatrième de couverture.
Oui. Rejoignez Rose Tico, la mécanicienne rebelle star des derniers Jedi, alors qu'elle prend du grade dans la lutte contre le premier ordre. Le jeune Anakin Skywalker participe à une course de modules plus explosive que jamais. Retrouvez également Ezra Bridger, Hera Syndulla et le reste de l'équipage du Ghost qui doivent remettre la main sur un oiseau sacré tombé aux mains de l'Empire. Mais le pirate de l'espace, Hondo Anaka, leur donne du fil à retordre.
Donc, celui-là contient les épisodes 5 et 6 de Star Wars Adventure. Ceux qui sont attentifs auront remarqué qu'on est passé du 2-3 au 5-6. Donc, pourquoi Delco a fait le choix de ne pas mettre le numéro 4? On n'en a pas la moindre idée. Mais bon, c'est ça. Le numéro 5, comme tu l'as dit, c'est Rose. Le titre Rose à la réponse. Numéro 6, Menacé. Ensuite, on a Module de secours, l'histoire d'Anakin là, quand il était enfant. On a ensuite Mieux vaut prévenir que guérir, donc une histoire de Nyan Nom et Shriv. Et le dernier, Coup de foudre à Tatooine, donc une histoire de Jawa. Donc, on va briser notre rythme de tantôt. Si on y allait plutôt cette fois-ci avec la couverture, parce que moi j'ai beaucoup aimé la couverture.
Moi
avec
aussi.
On a droit à une rose avec un outil, un genre de clé, qui fonce vers nous avec le X-Wing de peau à l'arrière. J'ai trouvé ça très joli.
Ouais, c'est vraiment...
Évidemment, faut aimer le personnage, je pense. Parce que
ouais, c'est... moi j'aime vraiment Rose.
Mm-hmm.
Je trouve qu'elle apporte quelque chose à ça.
De la nouveauté?
Ouais, elle apporte de la nouveauté.
Ouais, ça c'est sûr. Il y a les gens qui l'aiment moins. C'est certain que c'est un personnage qui est pas épique au niveau héroïque. T'sais, c'est pas comme Leia ou Luke là, qui en un seul coup fait sauter l'étoile de la mort puis sauve la galaxie.
Ben...
Donc on a droit à une version un peu plus... de l'intérieur de la résistance.
Ouais, mais en même temps, elle est mécanicienne, on l'a... Mm-hmm. Je veux dire, on l'a jamais vu à l'œuvre.
Ben, c'est ça, là, ça commence les œuvres dans lesquelles on la voit.
Ah, c'est ça. Mm-hmm. Pour moi, dans le prochain film qui va sortir...
En décembre,
ouais. Ouais, pour moi, elle va plus faire des actions héroïques, si je peux dire ça, là, que juste être mécanicienne puis réparer... choses.
Ouais, ben c'est vrai que sa mission sur Canto Bight a viré à l'échec un peu dans l'épisode 8, même si tout cet arc-là a une importance. Là. Mais ça a une importance plus sur un autre personnage, à savoir Finn. Donc si on y allait avec notre première histoire qui s'appelle justement Rose à la réponse. Donc encore une fois, un peu comme je disais tantôt, on a une auteure relativement connue des livres. On a Delilah S. Dawson qui est au scénario. Je vais préciser tantôt, mais pour ceux qui n'ont aucune idée, c'est qui? C'est elle qui a écrit le livre Phasma. Donc, un livre qui a quand même été apprécié par pas mal de monde et qui écrit une genre de suite. Je pense qu'on peut déjà dire que ça va être une genre de suite à Phasma qui va s'appeler Galaxy's Edge. Donc, quelque chose qui est un peu en satellite des parcs que Disney est en train d'ouvrir. Mmh. Mais ça suit la même espionne que dans le livre Phasma. Donc, c'est ça, une auteure quand même assez appréciée de la sphère littérature de Star Wars. Cette fois-ci, pour faire un résumé rapide, on a droit à une Rose qui est toujours en train d'étudier le manuel d'utilisation du Radius et qui se fait critiquer par ses collègues et les pilotes, tout ça, comme quoi être tout le temps devant ses écrans en train de lire des affaires.
Ben, Rose est sur les écrans parce qu'ils viennent de, je sais pas si tu peux dire ça, emménager dans un nouveau vaisseau.
Dans le Radius,
ouais. Ouais, fait que les gens, eux, ils se promènent dans le vaisseau pour apprendre à le connaître, tandis que Rose, elle regarde les plans sur un écran.
Elle étudie la théorie, on va dire.
Ouais. Puis, en rencontre Poe Dameron, puis une fois qu'il est parti, elle dit « Oh mon Dieu, j'ai rencontré LE Poe Dameron, j'ai trouvé ça vraiment drôle. »
Ouais, dans le fond, ça se passe juste avant l'épisode 8.
Ouais.
Avant qu'il se fasse attaquer, donc on comprend après ça, elle rencontre LE Finn.
Oui.
c'était une bonne semaine pour elle, donc visiblement elle est fan de Poe Dameron.
Le grand Finn!
Le grand?
Pardon, je passe ma vie derrière des tuyaux. Faire la causette avec un héros de la Résistance, ça ne m'arrive pas tous les jours.
Dans le fond, ce qui arrive, c'est qu'ils font une réinitialisation du Radius. Du système informatique, et ça fait en sorte que la porte du hangar ne veut plus ouvrir. Oui. Et là, Poe Dameron est tout seul dans l'espace à se faire attaquer par des chasseurs et incapable de lui envoyer des renforts parce que la porte ne veut pas ouvrir. Donc, tout le monde essaye mille et une possibilités mécaniques là, pour régler le problème. Et Rose se dit, ben, je vais retourner voir le manuel, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui a dû nous échapper. Et au final, tout dépend d'elle et c'est elle qui finit par débloquer le système et permettre à tous les autres chasseurs d'aller secourir, si on peut dire, pour Dameron.
Ouais.
Côté histoire déjà, qu'est-ce que t'en as pensé, Tamara?
Côté histoire, je l'ai trouvée très intéressante.
Mm-hmm.
Cette histoire-là, je l'ai vraiment beaucoup aimée.
Et côté graphique?
Les graphiques aussi.
Ouais.
Je trouve qu'ils étaient bien, on peut vraiment bien reconnaître les personnages dans leur visage. Comme on disait tantôt, souvent les dessinateurs ont de la misère à reproduire les visages,
mm-hmm.
qu'on a plus de misère à savoir c'est qui.
C'est relativement simpliste par contre comme dessin, hein. T'sais, c'est pas...
Oui,
on est loin du photoréalisme là, de l'Avocat par exemple, on est ouais, c'est ça, dans les traits simples, donc peut-être plus cartoon un peu, dessin animé de télé. Petite histoire relativement, ben pas nécessairement du déjà vu, mais bon, on sait déjà ce qui va arriver.
Ouais, c'est prévisible.
C'est ça, parce qu'on a vu l'épisode 8, donc... Mais sinon, petite histoire sympathique. Et bon, ça nous fait découvrir un peu plus Rose, qui, comme tu disais tantôt en présentation, c'est un personnage qu'on a juste entrevu jusqu'à maintenant.
Ouais.
Donc, vu qu'il était seulement dans un film. Je peux pas dire que je l'ai énormément apprécié, pour ma part. Je trouve que ça tournait en rond beaucoup. Mais je comprends la morale derrière l'histoire de Delilah S. Dawson. Ensuite, on passe au second Star Wars Adventure qui est dans cet album-là. Il s'intitule Menacé. C'est une histoire des Rebels de la série animée Star Wars Rebels. Comme Kanan est déjà aveugle, je dirais que ça se passe autour de la 4e saison de Rebels.
Ouais.
Donc,
peut-être après. Parce qu'il est déjà aveugle, mais il porte pas le masque qu'il portait...
Ouais, effectivement, il porte pas l'espèce de masque, ouais.
Il porte plus vers la fin mm-hmm. de Rebelle.
Ben, ça peut pas être après, parce que là, on connaît la fin de... tragique dans le cas de Kanan.
Ouais.
Et bon, Ezra, on sait pas trop ce qui lui est arrivé. Mais tout ça pour dire que c'est ça, ça se passe vers la fin plutôt qu'au début. On a Ezra aux cheveux courts, puis Kanan aveugle. Je préciserais une des choses qui est frappante avec ce numéro-là, c'est qu'on a deux dessinateurs. Un dénommé Sean Galloway et un dénommé Jamal Peppers. Mais ce qui est particulier, c'est que c'est vraiment au milieu de l'histoire qu'ils ont changé de dessinateur. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé côté logistique. Là, c'est ça, il y a quelque chose qui a bugué dans la production. Ouais. Là, ils ont manqué de temps. Mais ouais, en plein milieu, ça a changé de dessinateur.
Moi, je lisais l'histoire, puis je regardais les graphiques. Puis là, je me disais, ah, j'aime ça. Puis à un moment donné, je me rentre une page, je fais...
Ça a donc bien changé.
Hein. Oui! Je me disais, il me semble que c'est pas du tout pareil. J'ai trouvé ça très agaçant.
Ouais, c'est ben en fait, c'est ça, c'est que c'est deux styles de dessin qui se ressemblent pas.
Ouais.
Ou si c'était ressemblant, au moins. Le premier dessinateur, Sean Galloway, on a droit à de quoi de plus manga un peu. Ce qui fait que les personnages ressemblent pas nécessairement exactement à ce qu'on voyait dans la série.
Non.
Ça lui donne quand même un style le fun.
Ouais.
Les grands yeux.
Moi, j'ai trouvé qu'il ressemblait assez à ça. Ah, dans la série, mm-hmm. sauf Ezra.
Ah ouais, Ezra, ouais, un peu.
Dans son visage,
mm-hmm.
il semble que Kanan, on le reconnaît assez bien. Zed, ben, oui. Puis Sabine, je trouve qu'il était vraiment réussi.
Mm-hmm.
Très du visage, mais Ezra, on le reconnaît pas du tout.
C'est ça, c'est un style, soit on aime, soit on aime pas.
Ouais.
Sinon, pour résumer un peu, c'est l'histoire de notre fine équipe de rebelles. Qui va infiltrer un cargo, on va dire,
ouais.
qui transporte un oiseau culte
qui a été
volé sur une planète. Un oiseau tellement rare qu'il y en est un par génération,
ouais.
si je ne me trompe pas.
C'est Agora, je pense.
Oui, donc l'Argora, ça c'est le nom de l'espèce. Donc c'est ça, un oiseau sacré sur la planète Xendek. Je pense pas que c'est une planète qu'on connaissait, ni des aliens qu'on connaissait.
Non.
Honnêtement, là, faudrait demander à Tom encore une fois. Mais un oiseau tellement important qu'avant qu'il soit rendu sur Coruscant, les rebelles veulent aller le récupérer. Pas parce que la planète en question représente un intérêt stratégique ou quoi que ce soit, mais juste pour faire ce qu'il y a de bien. Donc, le grand cœur de Hera Syndulla là, qui frappe encore.
Parce qu'on dit que pour la planète Zenex et ses habitants, l'oiseau il représente l'espoir.
Mm-hmm.
La pluie, eux, ils pensent que c'est lui qui amène la pluie, qui leur donne les ressources abondantes. Fait que bref, sans
c'est
lui...
C'est vraiment de quoi de religieux, en
fait. Ouais.
On a notre Karazeb qui est toujours celui qui... Ça ne tente pas de risquer sa vie pour ça. C'est juste un piaf, c'est juste un oiseau. Puis, donc c'est ça, la brute. Donc on retrouve bien. Moi, je me suis replongé dans Star Wars Rebels dans les dernières saisons. Donc c'est ça, la fine équipe finit... dans le fond, Hera distrait les impériaux, les chasseurs impériaux avec le Ghost, alors que le Phantom, par la porte d'en arrière, infiltre le cargo. À l'intérieur, on a droit du côté des impériaux à un officier qui dit ouais, ben pas qui partage le commandement, mais bref, qui se fait chialer après par celui qui a enlevé l'oiseau, ainsi que d'autres créatures, un zoologiste.
Ouais.
Donc, qui a aucune connaissance militaire, mais qui dit là, qui chargé, comment ça se fait qu'il y a juste nos chasseurs qui explosent, etc.
Qui est chargé par l'empereur d'amener ces espèces en voie d'extinction et très rares dans son zoo personnel.
Mm-hmm. J'ai aimé aussi de retrouver, ben là, c'est ça, Hera distrait avec la Ghost. Et sur les tourelles, on a Chopper et l'autre droïde, que je ne me rappelle plus du tout de son nom, mais c'est un droïde analyste.
Bleu avec des gros bleu marin.
Qui était justement dans la quatrième saison, mais qui est très très bien personnifié dans le comics. Donc c'est ça, la fine équipe infiltre de force à coups de sabre laser le vaisseau impérial.
Ouais.
Évidemment, les impériaux s'en aperçoivent et vont à leur rencontre. Donc là, on est typiquement dans une histoire de Star Wars Rebels. Donc, il y a eu plusieurs épisodes de ce genre-là. Vraiment, là, les rebelles qui ont aucune peur. Il n'y a rien, là, infiltrer un vaisseau impérial. Donc,
encerclés. Oh, c'est pas grave.
C'est ça, c'est pas grave. Donc c'est ça, finissent par, à coup de course et de fusillade, finissent par se rendre dans l'entrepôt où sont les créatures, ou en fait, finit par tomber.
Ben, comme au début de l'histoire, Ezra a dit qu'ils ont eu un tuyau pour dire que l'oiseau il était sur ce transport-là.
Ouais, d'un informateur.
Ouais, puis vous ne serez pas surpris. C'est encore Ando Anaka qui est leur informateur dans pratiquement
tout. Ouais, c'est ça. C'est ça, Ezra refusait de dire c'était qui l'informateur.
Ouais.
Là, finalement, il tombe face à face avec Ando qui est en train de voler l'oiseau lui aussi. Donc, il avait manipulé Ezra, encore une fois, comme ça arrivait tout le temps dans la série télé, pour que l'équipe de rebelles fasse distraction pendant que lui, par en arrière, volait l'oiseau pour le vendre au plus offrant. Donc, on a un Hondo là, typique de la série Rebelle là-dedans. Jamais agressif, toujours souriant. Il appelle tout le monde mes amis, autant les rebelles que les impériaux. Ah, mes amis impériaux! Hondo le pirate, qui est devenu maintenant la vedette du parc Galaxy's Edge, mais avec ses grands discours de « Non, 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 c'est moi qui l'ai dans les mains, donc il est à moi. » Et Zeb qui lui répond « Si c'est juste tes mains le problème, je peux te les arracher.
»
Donc c'est ça, on est vraiment dans un épisode de Rebels. Moi, j'ai beaucoup aimé. Par contre, comme on disait tantôt, en plein milieu, on change de dessinateur et on passe d'un style plus manga à un style beaucoup plus précis. Le pourquoi, on le sait pas, mais évidemment, il doit avoir une raison quelconque. Là. On espère qu'il n'y a rien de tragique en arrière de ça. Ça reste que côté histoire, ça reste très bien. Hondo, par contre, comme d'habitude, pas par maladresse, mais par insouciance, a libéré toutes les bêtes que le zoologiste transportait sur le cargo.
Ouais, assez dangereuses.
Dont plusieurs qu'on avait déjà vues. Je pense entre autres à l'espèce de... pas une mantre, un peu genre mantre religieuse ou araignée.
Qui attaque Obi-Wan Kenobi,
je pense. Dans l'attaque des clones. Je me souviens plus le nom de l'espèce, là, mais c'est sûr que ça donne pas envie de se retrouver face à elle. Non. Donc, les rebelles qui doivent se battre à la fois avec les animaux et avec les impériaux.
Une espèce de chien, loup, je sais pas trop quoi, que je pense que c'est lui qui attaque Leia.
Ouais, en fait, celui-là, il fait penser aux espèces de chiens à la fin du premier Ghostbuster. SOS Fantôme, là, les espèces de chiens. Là.
Ouais.
Mais bref, c'est à coups de fusillade et compagnie. Jusqu'à ce que dos au mur, ils ne savent plus quoi faire. Et Ezra, qui a une grande habileté avec les animaux, n'est pas présent. Lui, il est en train de poursuivre Hondo dans les couloirs. Donc, c'est Kanan qui est obligé d'essayer de connecter avec les animaux. Un peu comme Ezra faisait là, dans la série.
Ouais.
Et bon, heureusement pour nos personnages, ça fonctionne. Donc, les animaux arrêtent de les attaquer, eux. Mais, selon ce que Kanan dit, ils se souviennent de qui les a enfermés. Donc, ils se mettent à poursuivre les impériaux. J'ai bien aimé d'ailleurs la réplique de l'officier impérial. T'as un Stormtrooper qui court en criant au secours. Et puis t'as l'impérial qui dit « Silence, Trooper, vous représentez l'Empire, fuyez avec dignité. » Donc on est dans le... Moi, je me suis vraiment cru devant ma télé à écouter Rebels.
Ouais.
Au final, bon, la fine équipe finit par libérer l'oiseau qui va picosser le crâne de Hondo pour se venger. Toute l'équipe rapporte l'oiseau sur sa planète. Les indigènes de la planète remercient Hera. Et comme d'habitude, Zeb, même s'il rechignait depuis le début de la mission, finit par dire « Ah, ça nous a fait plaisir, quand on peut faire le bien. »
Oh, Carabast, je marche.
Donc, c'est ça. Personnellement, j'ai quand même beaucoup aimé ce petit comics-là, jeunesse. Surtout la première moitié pour ce qui est du graphisme. J'aime moins les dessins un petit peu plus précis comme ça. J'aimais beaucoup le style manga. Toi, Tamara, au global?
Moi, j'ai bien aimé aussi. Contrairement à toi, par exemple, j'aimais mieux les dessins plus précis que manga. Surtout dans le visage d'Ezra, que je parlais tantôt. Là,
Ressemble plus.
Ouais, il se ressemble vraiment plus.
Ensuite, on tombe dans les histoires de l'espace sauvage, donc les petites histoires contées par Émile, le petit-fils de Milo, qui raconte à Crater. Cette fois-ci, il nous raconte une histoire d'Anakin. Ça s'appelle Module de secours.
Ouais.
Donc, une histoire d'Anakin version enfant sur Tatooine, donc avant l'épisode 1, qui travaille pour Watto et en allant se débarrasser d'une caisse de pièces pour Watto, se découvre une cellule d'alimentation. Donc, tout de suite, se dit que grâce à ça, il va pouvoir faire marcher son fameux pas dresseur qu'on voit dans l'épisode 1.
Ouais.
Mais sur le chemin du retour chez lui, il croise, on va dire, une attaque de gangsters qui foutent un peu le bordel. Je sais pas, on ne sait pas trop ce qu'il attaquait. Mais bref.
Il attaquait le centre médical.
Ah oui, effectivement, c'est mentionné, le centre médical. Par contre, ça a détruit le générateur du centre. Donc, là, évidemment, ça peut avoir des conséquences graves. Donc, Anakin, très altruiste, comme on le connaît à cette époque-là, décide de sacrifier sa fameuse cellule d'alimentation pour réparer le générateur au lieu de pouvoir faire fonctionner son podresseur à lui.
Vous voulez un coup de main? Je suis un très bon mécanicien.
Et une semaine plus tard, on le retrouve en train de faire la course avec Sebulba, mais aux commandes d'un podresseur qu'on n'a jamais vu. Il l'appelle un tas de ferraille de Watto. Et il finit par se cracher, d'ailleurs, pendant la course, avec ce podresseur-là. C'est peut-être pour ça qu'on ne l'a pas vu.
Ouais.
Et t'as les gens du centre médical, donc l'espèce d'infirmière Twi'lek qui vient le secourir sur le lieu du crash. Donc, une histoire d'altruisme.
Ouais.
C'est rien d'extraordinaire, c'est très rapide. Ouais. Moi, j'ai surtout apprécié au niveau dessin.
Donc, ouais, le dessin était vraiment...
ça très joli.
Mais je trouve que l'histoire ressemble un peu à ce qu'on a déjà vu. Tu sais, je veux dire, la course, il est encore contre Sebulba. Pis...
Et Sebulba triche encore.
Oui, encore.
Ouais. Non, effectivement, c'est... Mais là, c'est du déjà vu, mais ça se passe avant.
Ouais. Mais c'était une assez bonne histoire. Moi, j'ai bien aimé. Les graphiques étaient vraiment beaux.
Ensuite, l'histoire de l'espace sauvage suivante s'appelle « Mieux vaut prévenir que guérir ». Et la particularité intéressante de ce numéro-là, c'est qu'on retrouve une petite aventure de Niemnom et de Shriv. Donc, Shriv, est-ce que tu te souviens, c'est qui, Tamara? Où est-ce que tu as déjà vu Shriv?
Shriv, me semble que c'est un pilote.
Oui et non. En fait, c'est un personnage de la campagne de Battlefront 2, du jeu Battlefront 2. Donc, un personnage vraiment plaisant qui a plu à beaucoup de monde.
Hé, hey, Shriv, j'espère que tu survivras aussi à cette mission terriblement dangereuse. Oh, merci, Del. Ton amitié compte aussi énormément pour moi.
Donc, on le retrouve aux côtés de Lando, aux côtés de, en tout cas, de à peu près toute l'équipe, et c'est... entre autres aux côtés de Niemna.
C'est la même espèce qu'un un des pilotes dans,
oui, dans l'escadron. L'espèce d'oncle de Poe Dameron.
Ouais.
Ouais. C'est la même espèce, je m'étais noté, c'est un Duros. Et dans le cas de Niemnom, bon ben, évidemment, c'est un Sulustéen. Donc, ceux qui se souviennent pas c'est qui, là, c'est lui qui est copilote du Faucon quand ils font sauter la deuxième étoile de la mort. Lui et Lando qui est pilote principal. Donc, cette fois-ci, on retrouve Niemnom et Shriv qui se sont posés pour poursuivre des chasseurs Thaï. Ils se sont posés sur une île, sur une planète.
Sans scanner.
Sans prendre le temps de vérifier s'il y a des formes de vie organique.
Ouais.
Des dangers potentiels de ce côté-là. Donc, Shriv arrête pas de chialer. Niamina, Midi, arrête de chialer et avance. Mais tout à coup, l'île se met à les avaler. Ils se précipitent vers le vaisseau, bref. Puis c'est ça, tout le vaisseau est avalé par l'île. Ils se retrouvent à l'intérieur, donc on en comprend que l'île était vivante. Et là, ouais. C'est ça, ils se retrouvent dans l'estomac, donc ils sont au travers de l'acide. Moi, ça te dira probablement rien, Tamara, parce que t'es trop jeune, mais ça m'a tout de suite rappelé le film L'Aventure intérieure. Je sais pas c'était quoi le titre en France. Ici, c'était L'Aventure intérieure. Donc, un film comique qui jouait au moins à tous les 6 mois à la télé. Que c'était un pilote, lui et son sous-marin se faisait miniaturiser et mettre à l'intérieur de quelqu'un.
Ça ressemble assez à un épisode des Simpsons.
Ben, probablement que l'épisode est inspiré de ça aussi.
Ouais.
Bref, c'est ça, on retrouve les organes et l'acide là, pour faire fondre le métal, les affaires comme ça. Et on a Shriv qui sort du vaisseau pour, avec une balayeuse pour nettoyer les moteurs et les
affaires là-même. Au début, on dit qu'ils se sont posés là parce qu'il fallait pas que les chasseurs interceptent les vaisseaux pour protéger les gens.
Ouais, il fallait pas qu'ils donnent la localisation du vaisseau de réfugiés qu'ils protégeaient. Ouais. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'ils avaient poursuivi des tailles sur cette planète-là.
Ouais.
Et les tailles, ben, se sont faites capturer aussi par le même stratagème, on va dire. Donc, on retrouve à l'intérieur de l'estomac, on retrouve un taille qui se fait bouffer, on va dire, ouais, là, par les organismes qu'il y a à l'intérieur. Des genres de gros vers de terre bleus, là.
Ouais.
Avec des mâchoires de requin, quasiment. Fait que moi, je me suis vraiment rappelé le film L'Aventure intérieure. Et j'adore le personnage de Shriv, j'aime beaucoup celui de Niemnom. Donc j'étais très agréablement surpris par cette petite histoire-là. Même si c'est vraiment pas de quoi d'incroyable. c'est pas du Star Wars épique là, galactique. Mais bon, c'est plaisant. Côté graphique, c'est du trait de crayon très très fin, très très précis. Moi j'ai un peu moins aimé par contre. Toi Tamara?
Moi j'ai bien aimé.
Mm-hmm.
Je trouvais que c'était vraiment ressemblant, là, Niemnom, surtout dans son visage. Mm-hmm. Il y a vraiment beaucoup de détails. Puis mm-hmm. là, je trouvais qu'il était vraiment bien mis. Là. Fait qu'on mm-hmm. pouvait vraiment bien le reconnaître. Puis l'autre personnage aussi.
Très bon.
Ouais, il était bien fait. Tu sais, il a genre des yeux rouges. Puis il y a plein de détails autour de ses yeux.
Ouais, une espèce de cicatrice d'un côté.
J'ai vraiment trouvé que les visages étaient vraiment beaux.
Mm. Donc, une petite histoire intéressante. Et notre dernier, mais non le moindre, c'est histoire de l'espace sauvage, s'intitule Coup de foudre à Tatooine. C'est une histoire de Jawa, comme on disait tantôt.
Oh, ils sont foutus!
Un Jawa qui tombe amoureux.
Une Jawa.
Ouais, c'est une Jawa, effectivement. Qui tombe amoureuse d'un droïde d'alimentation. Donc, les espèces de grosses batteries là, sur deux jambes, là, qu'on voit dans l'épisode 4. Donc, on apprend que tomber amoureuse, je suis pas sûr que c'est le bon terme, là, mais bref, qu'elle l'aimait trop pour le laisser être vendu, par exemple, à Luke et son oncle.
Ouais.
Donc, qu'elle faisait tout avec, donc le travail, les jeux, la sieste, les loisirs, les vacances, etc. On t'aborde un char des sables, me semble,
ouais.
On appelle ça. Elle, c'est la mécanicienne en chef, si
oui,
je me trompe pas.
Ben, c'est la seule mécanicienne en chef
du Sandcrawler. Ouais. Mais elle s'est toujours opposée à ce que le droïde soit vendu. Et à force de pression, elle a fini par élaborer une stratégie. Elle y a mis une pièce que si quelqu'un achetait le droïde, elle pourrait, avec un interrupteur, faire sauter de quoi de pas trop important. Donc, il serait pas vendu. Donc, finalement, c'est ce qui arrive. Ils sont arrêtés à une ferme. Quelqu'un veut acheter le droïde, donc il est sur le point de faire sauter la pièce. Mais une petite fille présente se met à faire un gros câlin au droïde, là, tombe en amour elle aussi avec. Donc la Jawa est touchée par ça et accepte de se séparer de son ami droïde. Donc une histoire de sacrifice, comme quoi on peut s'attacher à quelque chose qui n'est pas vivant aussi.
Ouais.
Mais il faut savoir aussi des fois s'en séparer. Quand les raisons sont bonnes.
Ouais, quand
raison, ouais. Donc ça, c'est un message à tous les collectionneurs de Star Wars. Bref, une petite histoire relativement courte et sans importance, mais graphiquement, je trouve ça tellement joli. Là.
Ouais, c'est
Je sais que le dessinateur a fait toutes sortes d'autres croquis aussi comme s'il allait justement faire une aventure à part des Jawa, là, donc ce qui serait très amusant, mais qui est pour l'instant juste un fantasme. Donc, quelque chose à rajouter sur cette BD-là, Tamara?
Non.
Sinon, à la fin, on a encore une fois plusieurs variantes de couverture. Donc, des différents dessinateurs. On en retrouve un peu de tous les styles.
Ouais.
Moi, encore une fois, j'ai
flashé sur les mêmes dessinateurs. Il y avait beaucoup de dessins sur l'histoire des rebelles.
Ouais, effectivement, il y en a eu plusieurs. Moi, j'apprécie beaucoup ça, le contenu supplémentaire quand même. C'est vrai que ça, comme je disais tantôt pour le premier tome, là, peut-être que c'était exagéré, une vingtaine de pages.
Ouais.
Mais j'aime ça parce que, justement, sinon, c'est quelque chose que t'as pas dans les albums. Tu sais, puis dans les comics, c'est un peu une tradition. Il y a souvent des variantes, des numéros spéciaux, hors-série, peu importe. Donc, j'aime ça avoir à la fin une collection de toutes les variantes.
Ouais.
Par exemple, il y avait un album de Panini où on avait même une entrevue avec le dessinateur ou des choses comme ça. Donc,
c'est ça.
Moi, je peux pas dire que j'aime pas ça, là, le fait qu'il y ait quelques pages à la fin. Mais bon, c'est vrai que pour le premier volume...
Il y en avait beaucoup trop.
Donc, celui-là, Tamara, quelle note que tu lui aurais donné? Donc, le troisième volume des Star Wars Aventures.
Je lui donnerais 10 sur 10.
Oh, OK. La perfection à ce point-là?
Mais c'est vraiment mon préféré.
Et t'as pas eu de grande déception là-dedans?
Non. Il y a juste un petit point qui m'a dérangé, c'est quand il a changé de dessinateur dans...
En plein milieu?
Oui. Ça, j'ai trouvé ça...
Mm-hmm.
J'ai trouvé que ça se faisait pas.
T'es insulté.
Oui.
C'est vrai que ça fait bizarre, en plein milieu d'une histoire, là, mais on imagine qu'ils n'ont pas fait ça pour le plaisir.
Ouais, tu lis ça, t'es comme, t'as un style manga, puis là tu passes à un style vraiment plein de détails. Le changement est vraiment bizarre.
Moi, celui-là, je trouve qu'encore une fois, c'est une amélioration du précédent. Certaines critiques que j'avais pour le précédent, celui-là les a comblées. J'ai beaucoup apprécié l'histoire des Rebels, puis pourtant, je suis pas un fan fini là, de Star Wars Rebels.
Ouais, moi aussi, j'ai beaucoup apprécié.
Mais cette fois-ci, j'ai beaucoup aimé ça. L'autre, je lui avais donné un 16-17, fait que celui-là, je lui donnerais peut-être un 17-18 sur 20.
Mm.
Moi, comme toi, il y a l'histoire de changer de dessinateur en plein milieu. Là, que, bon. Mais ouais, ça, là, je la recommanderais avant même les autres. Ouais. Parce que de toute façon, c'est pas des histoires qu'on a besoin de lire le premier avant le deuxième. Là.
Ben là, moi j'ai trouvé que dans celui-là, c'est celui qui avait les meilleures histoires.
Mm-hmm.
Comme la première sur Rose, puis la deuxième sur les Rebels.
Mm-hmm.
C'est vraiment les deux meilleures, ben mes deux préférées, moi, de toute la série.
Mm-hmm.
Avec, bien sûr, l'histoire de Leia puis Luke,
mm-hmm.
en mission diplomatique.
Ouais, c'est dans le deuxième volume.
Ouais.
Donc, ça veut dire que ce sont améliorés au fil des albums. Fait que c'est ce qui conclut l'aventure des BD Star Wars Aventures chez Delcourt, parce que comme on expliquait en présentation, il n'y aura pas de volume 4. Le volume 4 a été annulé,
sans
prévenir. C'est très dommage, parce que moi j'aimais bien le format quand même. Ça se mixait bien avec les comics Panini qu'on
moi a. Moi aussi, j'aurais préféré qu'ils fassent plein de tomes de ce format-là.
Fait qu'on verra pour la suite. Mais comme on disait tantôt, la suite s'en vient relativement bientôt, donc on n'aura pas beaucoup à attendre pour ça. Au final, je pense que ça a quand même été une belle expérience, en tout cas du point de vue qualité chez Delcourt. Et évidemment, les notes qu'on a données, puis nos avis aussi, on prend aussi en considération que ça s'adresse à des plus jeunes. Donc, c'est certain que c'est quelque chose quand même qui est le public cible. Moi, j'en fais pas partie. Puis même toi, Tamara, c'est limite pas mal.
Ouais.
C'est pas mal. C'est peut-être pour les plus jeunes un peu. Donc, c'est vraiment initiation aux comics Star Wars.
Ouais.
Mais c'est ça. Je trouve que comme une initiation pour les plus jeunes, c'est très réussi. En conclusion, n'hésitez pas à nous laisser vos impressions sur ce qu'on vient de discuter par email à studio@StarWarsEnDirect, sur l'article de l'épisode sur notre site de Star Wars en direct, ou sur notre page Facebook, notre compte Twitter, notre compte Instagram, ou notre chaîne YouTube. On apprécie beaucoup à la fois les commentaires sur le contenant et le contenu, mais aussi les discussions. Donc, quelque chose qu'on a oublié, ou des questions que vous avez. Donc, bref, on aime beaucoup justement pouvoir interagir avec vous là-dessus. On rappelle encore une fois qu'on est en recrutement au Québec, donc si vous êtes intéressé à joindre l'équipe de Star Wars en direct, allez voir sur notre site internet. On rappelle qu'on est présent sur les plateformes iHeartRadio, Deezer, Spotify, Stitchers, Google Play, Google Podcasts et Apple Podcasts. On remercie encore une fois nos partenaires Mintinbox, Star Wars Holonet, Siteclan.net, Planète Star Wars, Star Wars Universe, Star Wars Geeks Québec, Génération Star Wars et Science-Fiction et le Space Trash Show. De la part de Tamara et moi-même, merci d'avoir été à l'écoute de Star Wars en direct, la voix du fandom Star Wars.
Et que la force soit avec vous!